Sud.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Gros sondage léger aujourd'hui. On ouvre avec ça. Très heureuse de vous retrouver. Revenons à la fameuse question des pouvoirs en immigration. Devrait-on avoir l'ensemble des pouvoirs en immigration, même si on sait que c'est absolument utopique, que ça n'arrivera pas? Mais les Québécois, dans toute leur sagesse, des fois, me posent la question si on est cohérent avec nous-mêmes. Alors, je vous explique. Appui à l'organisation d'un référendum sectoriel sur les pouvoirs en immigration. Grosso modo, on leur dit, voulez-vous un référendum sectoriel, un référendum juste sur l'immigration pour qu'on puisse avoir les pleins pouvoirs? Non à 43 %, 34 % pour oui. OK, fait que c'est le non qui gagne. Puis là, on leur dit, est-ce que vous êtes d'accord avec le rapatriement des pouvoirs en immigration par le gouvernement du Québec? Ah, ben, ça, oui. 65 % oui. Mais tu veux pas le référendum? Non, je veux pas le référendum, mais je veux avoir les pouvoirs. On est un peu bizarre, je dois le dire. On est un peu schizophrène. Et là, les Québécois ne sont pas d'accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon lorsqu'il dit que le Canada déploie une stratégie concertée pour nuire au Québec. 49 % des Québécois sont en désaccord avec cette affirmation-là. Et l'autre chiffre qui m'a sauté aux yeux, c'est si le Québec reste dans le Canada, le français finira par disparaître. 55 % des répondants sont pas d'accord avec cette affirmation. Me semble que c'est clair. Bienvenue à Cube et bienvenue à votre nouvel épisode.
Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel.
Luc, t'es-tu plus paille en plastique, paille en bambou, paille en mon carton?
Paille en bambou, tiens.
C'est vrai, ton chat s'appelle
ben
bambou.
Oui, mon... Alors, ça va de soi, paille en bambou.
Ça se défait moins dans la bouche.
Il paraît, oui, il paraît. Tu sais que cette semaine, à Ottawa, t'as des fonctionnaires venus de 176 pays, ils doivent être au moins 700-800. Cher, ça. Ils sont réunis à un sommet mondial sur la pollution plastique. Ça veut dire, tu comprends, il y a à peu près 3-4 ans, on a commencé à voir ces images-là arriver. Des immenses étendues d'eau avec des bouteilles de plastique qui flottent. Et puis, les gens ont pris conscience du fait que c'est destructeur au max. Et là, ils ont dit, bon, on va faire comme d'habitude. On va nommer des fonctionnaires qui vont s'en aller en voyage un peu partout dans le monde.
On va s'en occuper.
Puis là, ils vont s'occuper de ça, eux autres. Ils vont négocier.
Mais ils vont commencer par consulter à Madagascar. Pas à Madagascar, au Mozambique.
Au Mozambique. L'office de consultation publique de Montréal a été appelé
en renfort.
L'ancienne équipe. Celle qui voyait glace.
Guy Grenier.
Guy Grenier lui-même. Le bellâtre de. Ben pendant que ce sommet-là, qui réunit, je le répète, 600-700 fonctionnaires, ça prend des billets d'avion, ça doit coûter cher, ces sommets-là. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause.
Ben oui.
Ils vont discuter. Ben pendant ce temps-là, les conservateurs, eux autres...
Ils sont pas plus fous que d'autres.
Ils ont décidé de lancer une pétition pour empêcher qu'on fasse disparaître les pailles en plastique, le plastique en général... Il y a une pétition, c'est très sérieux, là. Ils sont très sérieux. Il y a un député, le député Brendan Leslie, qui est un élu du Manitoba, lui a dit qu'il veut rien savoir des pailles à base de plantes. En plus de ne pas être pratique, même si lorsqu'elles seront biodégradées, oublions pas ça, des produits chimiques éternels qu'elles contiendraient finiront par rester dans l'environnement de toute façon. Alors...
Fait que le débat, c'est...
Ben, le débat, eux autres, ils disent la lutte contre les pailles en plastique n'est qu'une stratégie des libéraux pour bien paraître, accuse le député, parce que ce qu'il dit, par exemple, qui veut rien savoir des sacs réutilisables. Ce même député qui a des centaines de ces sacs, dit-il, qui encombre ses armoires, mais oublie toujours de les sortir. Ça, c'est pas complètement faux, hein. Je veux dire, maintenant, dans les épiceries, faut que t'achètes ton sac qui se veut réutilisable. Bon. Alors, moi, l'épicerie que je fréquente, parce que c'est la plus près de chez moi...
Tu sors jamais tes sacs réutilisables, t'en achètes toujours des neufs?
Tout le temps.
Moi aussi.
Mais ça coûte 35 cents.
Mon sous-sol est rempli de sacs réutilisables.
Ben moi aussi, on sait pas quoi faire avec ça.
Je sais pas quoi faire avec.
Alors, c'est bon, on dit, mais veux-tu me dire pourquoi les conservateurs lancent une pétition là-dessus?
C'est paille.
Sur les pailles, puis sur les sacs, sur le plastique.
Non, mais honnêtement, c'est-tu ça, le monde, là? C'est-tu ça, le débat?
Ben, c'est-à-dire que ça vient nous exposer une réalité de ce qu'était le Reform Party avant qu'il disparaisse et qu'il se joigne à ce qui est devenu le Parti conservateur du Canada. Les conservateurs en question, à l'élection en Ontario, avaient fait, par exemple, du fait que je vous promets que les magasins de beer store, comme ils les appellent, les magasins où les boutiques où on vend de la bière, ça, la bière ne coûtera jamais plus qu'un dollar. Alors tu dis, mais veux-tu me dire une promesse électorale?
Mais pourquoi c'est aussi...
Parce que c'est populiste. Parce que...
Primitif,
parce...
en fait.
Je sais pas si c'est primitif.
Ouais, la bière à une pièce, là, c'est pas penser beaucoup de l'intelligence
d'accord,
des Ontariens.
Je pensais que tu parlais du débat actuel
non.
sur le plastique. Qu'est-ce que tu veux, à un moment donné? On trouve ça idiot, là, faire des sacs réutilisables. Moi, je trouve ça... limite un peu...
Non, moi, c'est moi qui suis idiote de ne pas le prendre avec moi avant de partir et de continuer à payer pour.
Mais oui, mais tu sais, tu t'en vas avec ta voiture, tu dis, ah, il faudrait que j'aurais t'acheter un peu de lait puis du pain puis tout
toute
ça.
Toute la planète a ce sac-là dans leur coffre, à part moi et toi.
Je suis pas sûr de ça, moi.
Écoute, moi, je suis gênée quand je suis dans le stationnement d'une épicerie. Là, tu vas voir comme la belle petite famille, là, tu sais, l'enfant qui a pas de crotte de nez, pas comme les tiens. Puis là, ils ouvrent le coffre, puis ils prennent leur sac. Ils ont été pliés. Ils les ont pas juste crissés là, comme moi, je fais dans mon auto.
As-tu dit crisser, là?
Oui.
Yasmine, s'il vous plaît! Mesdames et messieurs, je m'excuse au nom de tous ici.
Fait que là, tu sais, moi, je rentre là avec mes trois enfants, la broue dans le toupette. Puis là, il y a la caissière qui me dit « Est-ce que vous avez vos propres sacs? » Puis là, je suis comme « Je les ai encore oubliés!
» Moi, en fait, l'épicerie où je vais... Parce qu'en plus, dans les épiceries, maintenant, le comptoir, la caisse enregistreuse, ça n'existe plus ou presque plus. Là, c'est tout...
Maintenant, t'es autonome.
C'est ça, sauf que l'épicerie où je vais, il y a une allée. Alors, j'y vais.
Pourquoi tu ne vas pas dans l'autre?
Parce que ça ne marche jamais. Scanne l'affaire, ça ne marche pas. Je ne suis pas un scanneur de bouteille, moi. Là.
Ils ne vont pas t'engager à SAQ! Attention!
Alors, quand j'arrive à ma caisse enregistreuse favorite... Il me pose même plus la question, il sort un sac puis il me le donne.
Il charge, je dirais. C'est comme une consigne pour toi.
Voilà, la même chose quand tu vas à la SAQ. Parce que la SAQ, c'est encore plus fou. C'est qu'ils sont un monopole.
Mm-hmm.
Alors, à intervalles réguliers dans l'année, il n'y a plus de sac. Pourquoi il n'y a plus de sac? On ne le sait pas.
Ils ne l'ont pas assez commandé.
Ils n'ont pas assez commandé ou
c'est
ils ont oublié
des commandes.
C'est la compétition
qui l'a acheté à leur place.
Ben, c'est ça, mais il n'y en a pas de compétition, justement. Ça me fait dévier
mais Luc,
mon sujet.
Moi, j'ai le truc pour la SAQ.
Vas-y.
Comme ça, tu économises l'argent des sacs.
Vas-y.
T'en achètes 12, ils te donnent une boîte.
Ah ouais? Wow!
Tu payes pas la boîte.
Ah! Quel bonheur!
Quand t'achètes 12...
Qu'est-ce qu'on ferait sans Yasmine dans ce bas monde?
Une machine à trouver des économies.
Une idée à temps pas long. Ça déboule, comprends-tu? Ça déboule. Écoute, je reviens à mon député, Leslie, il dit « Un sac réutilisable, il faut qu'il soit utilisé au moins 50 fois pour en valoir la peine sur le plan environnemental. Il n'y a aucune façon que quelqu'un d'entre nous utilise ses sacs assez souvent pour faire une différence dans notre environnement. » Ben, écoute, ça peut nous paraître ridicule parce qu'on achète, nous autres, le discours ambiant, c'est qu'il y a 176 pays qui envoient chacun une dizaine de fonctionnaires puis qui s'installent puis négocient un traité de quoi, je sais pas quoi. Alors, tu l'as dit tantôt, l'organisme, comment ça s'appelait, l'Office de consultation publique de Montréal, eux, là, pour ne rien manquer à chaque fois que ces pays-là se
réunissaient. Ils
doivent assister. Ils étaient là.
Ben oui.
Parce qu'ils étaient là parce qu'ils étaient là.
Ben oui.
Mais pourquoi ils étaient là?
Ben parce qu'ils devaient être là.
Ben non, ben c'est parce qu'il y avait des billets d'avion gratos.
Il y a du resto.
Oui, oui.
Des perdines?
Oui.
Un buffet?
Oui, non seulement ça, une soirée aux huîtres pour Guy.
Ouh, champagne.
Champagne.
Champagne!
Ah, les bulles, vive les bulles! Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes tannés de vous faire faire la morale parce que ce côté-là de l'histoire qui explique une partie du comportement des conservateurs, par exemple, je vivais en Ontario quand... Puis lequel des gouvernements ontariens est arrivé avec l'idée qu'on ne laisserait plus les enfants aller dans l'eau des lacs s'ils ne portaient pas un gilet de sauvetage.
Oui.
Bon, c'est plein de bon sens. C'est juste que moi, le seul sport où j'ai été vraiment bon dans ma vie, c'est la natation. J'ai plongé dans tous les lacs sans avoir de gilet de sauvetage. Puis à un moment donné, tu te dis, c'est qui le sacrement de fonctionnaire qui a décidé qu'il fallait que je porte ça?
Oui, mais il y en a d'autres qui en fait comme toi, puis eux, ils sont pas remontés à la surface.
Ouais, mais ben... Pff. Moi, OK.
Mais, t'avais un gros argument.
Mais en gros, là, je souscris à cette idée que véhiculent les conservateurs de l'Ouest canadien que j'aimerais que le gouvernement s'enlève dans nos pattes.
Mais moi, je veux que les pailles en plastique reviennent, pour vrai.
Tu veux que ça revienne?
Oui, moi, les pailles en papier...
Ça marche pas, hein?
Ça me pourrit la vie. Des fois, là, tu sais, j'ai envie de boire quelque chose, là, tu sais, puis j'y pense, puis j'ai hâte. Puis là, j'arrive, je l'ai... La première gorgée, il y a comme le petit carton qui commence à se défaire.
Ouais,
là.
Ouais, ouais.
Puis là, il y a pire, j'ai un petit bébé, un petit coco de 17 mois. Essaye d'y faire boire un jus en carton avec une paille en papier. Lui, il comprend pas. Il fait juste mordre là-dedans. Là. Fait que j'ai comme un gros mouton de carton en guise d'une paille. Écoute, je pense que je vais voter. Je vais signer sur la motion.
Moi, je pense que les 176 pays et leurs fonctionnaires devraient tous retourner chez eux. Puis si on veut mettre fin, parce qu'on dit qu'il y a un quasi-continent dans le sud du Pacifique, ou à cause des courants marins où se retrouvent les bouteilles de plastique, ben là, chez moi, là, les 176 qui se réunissent, là, et puis entendez-vous entre les grandes puissances, puis
faites un zoom. Pas obligé de vous rencontrer.
Même pas obligé de vous rencontrer. Faites un zoom. Sauf que si je mets la moyenne à 10 fonctionnaires par pays, ça n'en fait plus de 1500. Alors, on va faire 2-3 zooms.
Mais, je vais te dire quelque chose que peut-être que tu sais, là. Les congrès de Québec solidaire,
ouais.
Tu sais avec quoi ils shakent le café, là, quand tu mets du sucre dans ton café?
Non.
Des spaghettis.
C'est vrai?
Ouais. C'est connu. C'est
vrai. Puis en même temps, tu sais comment ils applaudissent?
Ouais, mais ça, ça fait partie des assemblées générales. Voyons donc, Luc!
Comment ça va aujourd'hui?
Luc, t'es pas fin.
Êtes-vous heureuse?
Regarde, il n'y a personne qui parle. Politburo qui décide.
Voilà. Alors, si vous êtes en faveur de garder vos sacs en plastique puis vos pailles en plastique, allez signer cette pétition. C'est important pour l'avenir du pays.
Les sacs, ça ne me dérange pas, juste les pailles. Les maudites pailles.
Le reste, ça ne te dérange pas.
Bref, je vais continuer à payer ça. Luc Lavoie, toujours un plaisir.
Salut.
Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
La marathonienne Jeannie Barré a officiellement fait son entrée dans le livre Guinness des records dimanche dernier. Imaginez la mascoutaine atteinte d'une maladie génétique rare, a fait un marathon, et le marathon le plus rapide de l'histoire, en fauteuil roulant féminin. Ça, c'était dans un marathon à Londres. Jeannie Barré est avec nous. Bonjour, Mme Barré.
Bonjour.
Félicitations. Quel accomplissement. C'est franchement incroyable.
Ah, tu l'as dit, c'est incroyable. C'est drôle que tu dises ce mot-là parce que quand je roulais, je me parlais tout seul puis je disais ça. C'est incroyable. Je me disais ça. J'en revenais même pas moi-même de qu'est-ce que j'étais en train de faire parce que ça allait bien. J'avais un bon temps, je le savais. J'avais ma montre, j'avais mon chrono après mon fauteuil roulant. J'avais économisé, j'avais mis du temps en banque dès le début. Moi, je suis partie en fusée. J'ai terminé en fusée. J'avais pas le choix parce qu'il fallait que je fasse un temps exceptionnel de 4 heures, 30 minutes ou moins pour obtenir ce record Guinness-là.
4 heures, 30 minutes pour un marathon, c'est quand même incroyable. Ouais. Comment on se prépare à un marathon de cette sorte-là? Parce que là, vous avez pas juste dû vous préparer. Là, vous êtes allé pour le record Guinness, là, fait que vous avez dû faire quelque chose d'assez extraordinaire. On veut la recette, là.
Oui, ben c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de discipline, de motivation, de persévérance. Moi, je suis une fille très active. Moi, je suis une proactive. Moi, je dors pas sur la switch, pas sur les breaks. Moi, je roule à tous les jours de ma vie. C'est ce que je fais de le mieux depuis l'âge de 5 ans que je suis en fauteuil roulant. Et puis, j'ai toujours aimé ça. Moi, je me sens comme une coureuse, en fait. Moi, dans ma tête, tu sais, vous me voyez rouler avec mon fauteuil roulant, mais dans ma tête, je suis une coureuse, tu sais. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, c'est beaucoup d'entraînement. Écoute, j'ai passé mes journées, mes semaines, mes mois. En fait, ça fait 6 ans que je travaille pour ça. Ça fait 6 ans que je focus ma vie que pour obtenir un record Guinness. En fait, je m'étais dit, en 2018, quand j'ai fait le premier marathon de Montréal, en 2018, je suis devenue la première femme au Canada à faire un marathon en fauteuil roulant régulier. Puis je précise, quand on dit fauteuil roulant régulier, pour que les gens comprennent, ouais, c'est vraiment la petite chaise roulante là, que je suis assise dans présentement.
C'est OK, pas un, c'est pas un bolide là, qui a été retransformé pour vous emmener plus loin.
Pas en tout. C'est extrêmement difficile. Je mets la barre très haute parce que je pourrais dire, « Ah, je vais m'asseoir. » Tu sais, les gens comprennent pas. Comment ça se fait, Janie? Tu t'assois pas dans un vélo de compétition avec la baguette, avec la troisième roue en avant qui fly comme des Formule 1. Ben, parce que moi, c'est unique ce que je fais. Je suis la première femme au Canada à avoir réalisé en 2018 le marathon 42,2 km avec cette petite chaise-là. Puis quand je suis arrivée à la ligne, j'ai annoncé à tout le monde, ça, c'est moi qui ai décidé ça durant mon parcours. J'ai dit, je vais faire 10 marathons dans le monde, puis je vais m'inscrire dans la Ligue des records Guinness. J'avais dit ça à moi-même et j'ai dit ça à tous les médias et j'ai tenu ma parole. Puis moi, c'est pour moi, ça, c'est important. Alors, à Londres, en fin de semaine, c'était mon 10e marathon dans le monde avec les records Guinness sur place, qui ont chronométré mon temps.
Mais Madame Paris, ça vient d'où cette motivation très profonde, très ancrée?
Ça part de loin.
Pourquoi?
Ça part de loin. Bien, premièrement, moi, j'ai la maladie des os de verre. J'ai l'ostéogénèse imparfaite. Je me suis fracturé les os 157 fois depuis ma naissance. Et les gens qui se disent comment qu'elle fait pour savoir 157, ben depuis que je suis née, mon père écrit mes fractures sur une feuille de cartable et on a regardé aussi avec l'hôpital Shriners à Montréal, j'ai réellement eu 157 fractures. Je me suis fracturé les bras une cinquantaine de fois. Là, vous le voyez pas, mais moi, ce bras-là, mon bras gauche, il est pas tellement bon, mon poignet tourne pas, mon coude rouvre pas au complet. Et pourtant, hein, avec toutes mes fractures que j'ai eues, un bras qui est moins bon que l'autre, j'ai réussi un record Guinness au monde. Tu sais, dans ma tête à moi, c'était pour me prouver que même si j'ai cette maladie-là, que toute ma vie, j'ai cassé en morceaux, que j'ai pratiquement passé toute mon enfance, en fait, à l'hôpital Shriners, parce que j'étais toujours fracturée. On dirait que je voulais personnellement me prouver à moi-même que j'étais capable de faire de quoi de hot dans la vie. Alors moi, la seule solution qui me restait pour arrêter de casser mes os, c'était de me lancer dans le sport. J'avais une option, moi. Une option. Me faire des muscles pour protéger mes os fragiles. Parce que honnêtement, je vais te le dire, là, je me cassais à rien. Je faisais juste éternuer, là, à tchoumer, là, à tchou, me casser une côte. Si je frappais mon bras sur le bord de la table ici, là, je me cassais le bras.
Fait que vous êtes fragile comme ça? Puis vous dites, ben, tu sais quoi, je suis fragile physiquement, fait que je vais me lancer dans un marathon en chaise roulante régulière. Il me semble que ça connecte pas dans ma tête, là. Aidez-moi.
Non, ben c'est clair qu'il a fallu que je me fasse des muscles autour de mes os. Si j'ai pas de muscles autour de mes os fragiles, je vais casser. Je vais te le dire, je vais rouler ma chaise roulante puis je vais casser. Mais si j'ai des muscles, allez, là, je suis forte, là. Là, vous voyez peut-être pas, c'est de la brique, là. C'est du ciment. Ça m'a pris du temps. Moi, ça fait 11 ans cette année que je m'entraîne au club de boxe de Saint-Hyacinthe dans ma ville. C'est mon deuxième lieu, c'est là que je me tiens tout le temps. Je frappe dans des sacs, j'ai commencé tranquillement parce que même à frapper dans les sacs,
ben oui,
je pouvais facilement me casser un poignet ou une clavicule. Alors, honnêtement, là, ça m'a pris 2 ans, OK, assidu, là, à m'entraîner à toutes les semaines pour me former des muscles. Parce que si je frappais trop fort, je me cassais. Alors, ça a été long, mais j'ai tout transformé ma vie, moi, complètement. Et je suis carrée, là, je suis faite forte, là, je suis forte au bout, je me sens solide. Mais c'est de l'entraînement à côté, là, tu sais, je veux dire, c'est non-stop, tu t'entraînes à toutes les semaines. Je m'entraîne 6 jours sur 7, moi.
Vous savez que vous méritez 2 records Guinness, là, pas juste un. En fait, je rajouterai un troisième. Oui. Vous êtes hyper inspirante.
Oh, merci.
Vous prenez une maladie, vous prenez un handicap, puis vous en faites un catalyseur d'accomplissement.
Après, là,
je suis un peu bouche bée.
J'aurais pu m'apitoyer sur mon sort, rester chez nous, ses breaks, à rien faire, à casser en morceaux, puis rester comme ça le restant de mes jours. Ça, j'aurais pu faire ça. Moi, c'est pas cette attitude-là. J'ai pas été élevée non plus comme ça. Faut que je t'avoue que j'ai des parents extrêmement positifs. J'ai des sœurs, moi, qui sont extrêmement fortes, qui font de l'haltérophilie. Mes sœurs sont policières. Moi, j'ai été élevée, là, avec du monde qui m'ont pas arrêté avec mon handicap, là. Tu sais, moi, là, je dirais ça bouge chez nous, là. Je suis dans une famille de sportifs. Fait que c'est sûr que je restais pas chez nous à rien faire. J'ai baigné dans le sport, moi. Fait à regarder mes sœurs, à faire de l'haltérophilie, mon père qui est commentateur Bernard Barry de boxe à RDS. Tu sais, moi, là, j'ai baigné là-dedans. Là. Puis même que j'adore la boxe, moi. Depuis l'âge de 5 ans que je vais voir des combats de boxe. Puis moi, pourquoi j'aimais ça, la boxe? Ben, parce que je suis contraire d'un boxeur, moi. Je suis extrêmement fragile. Moi, j'ai regardé les boxeurs, j'avais 5 ans avec ma petite chaise roulante sur le bord du ring, là. Puis je les admirais. Je voulais être comme ça. Moi, je voulais être forte. C'est juste ça que j'avais dans la tête. Et là, je suis forte. Tu sais, c'est nous autres qui décident. Hein? On est maître de notre vie. J'ai toujours dit ça, moi. J'ai visualisé ce record Guinness-là et je l'ai eu. Puis moi, là, c'est beau qu'est-ce que tu m'as dit. Si je peux inspirer le plus de gens possible sur la planète, là, quand je vais mourir, là, je vais être contente.
Je suis bouleversée, pour vrai. Je vous le dis, là. Puis Stéphanie est avec moi là en studio et elle l'est tout autant que moi. Vous avez plus rien
à dire,
je pense, aujourd'hui. Ça me touche à un point inimaginable. Puis là, on vous a vu en photo, là, vous étiez la seule en chaise roulante. Combien il y a de personnes qui font qui réalisent des exploits comme vous à travers le monde là, avec une chaise roulante régulière?
Ah non, je suis toute seule. Je suis toute seule à faire ça, moi. Tu sais, les gens, là, ils font avec des fauteuils roulants de course. Ils font avec des... Tu sais, là, on voit les bicycles avec la baguette, le troisième roule en avant. Oui. Ça fly, ça. Ça fly comme des Formule 1. Moi, j'ai toujours dit que je me sentais comme en Mazda. T'sais, moi, là, mes roues shake. Tu sais, mais c'est ça qui est beau. Tu sais, dans le fond, moi, ça me rend unique. Je suis toute seule à faire ça. C'est pour ça que j'ai écrit l'histoire dans le livre des records Guinness. Je suis la première à m'inscrire dans ce livre-là. Du marathon le plus rapide en fauteuil roulant régulier. Les gens, ils n'en ont pas d'intérêt de s'asseoir dans une petite chaise d'hôpital. Tu sais, pourquoi faire ça là-dedans quand on a des vélos de course qui flyent? Tu sais, moi, mes roues shake, là, ça fait ça. Quand je vais trop vite, là, quand je dépasse 10 km/h, là, mes roues shake comme un carrosse d'épicerie. Tu sais, fait que c'est ça, mais c'est extrêmement difficile. Pour vrai, je vais te le dire, c'est difficile. J'aurais plus de facilité de m'asseoir dans une Formule 1, moi, là.
Ouais, mais...
Mais ça ne me rendrait pas unique. Je ne serais pas dans le livre des records Guinness.
Ouais, mais je vous connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression déjà de vous connaître beaucoup. Et je sais que vous n'allez pas vous arrêter là. C'est quoi la prochaine étape, là? Parce que là, vous avez mis un check à côté. Votre record Guinness, vous l'avez, là. C'est quoi la prochaine obsession que je sais que vous allez accomplir de toute manière?
Ben moi, les marathons me sauvent la vie. Tu sais, ben honnêtement, le sport, tout court, me sauve la vie. Ma santé va tellement bien. Moi, ça fait 20 ans cette année que je me suis pas cassée, que je me suis rien fracturée. Alors, faut que je continue de m'entraîner. Puis moi, les marathons, j'aime ça. Tu sais, c'est l'affaire que j'aime le plus faire dans la vie. Tu sais, la vie, là, en haut, là, me met en chaise roulante, ben c'est correct. Tu sais, j'ai fini par l'accepter, puis j'aime ça rouler. C'est l'affaire que je suis la meilleure à faire rouler, moi, tu sais. Fait que je vais continuer de faire des marathons jusqu'à temps que ma santé me le permette. Tu sais, moi, là, je suis contente, je suis dans le livre des records Guinness, comme tu as dit, un check, c'est fait, mais moi, je m'arrête pas là, moi, je continue. Même que je vais t'avouer que mon 11e marathon dans le monde, c'est à Boston. Moi, j'ai déjà, pas Boston, excuse-moi, Berlin. J'ai réservé Berlin en septembre, ça va être mon 11e marathon dans le monde, et je vais continuer comme ça d'en faire, là, toute ma vie, jusqu'à temps que ma santé m'arrête.
Espérons que vous allez en avoir pour longtemps parce qu'honnêtement, vous êtes non seulement inspirante, vous faites la fierté du Québec et vous êtes une femme forte que rien n'arrête. C'était vraiment un honneur de vous avoir.
C'est vraiment... Mon esprit, là, c'est très fort. Tu sais, mon père, là, il a inventé une citation. Ouais, ça, faut le faire. Une citation à moi. Ça, c'est beau, là. C'est un beau cadeau qu'il me fait. Je l'ai de tatoué sur mon avant-bras. Ça dit « La force de l'esprit aura toujours préséance sur son enveloppe terrestre. » Puis moi, là, quand je roule, là, j'ai pas le body écœurant, on va se le dire, là, j'ai un handicap, là, tu sais, je veux dire, j'ai les os fragiles, je me suis cassé les bras une 50aine de fois, puis j'arrive toujours à la ligne. C'est pas parce que c'est le body, là, c'est ici. Si moi, je suis capable de faire tout ça, là, je vais te dire de quoi vous autres aussi, vous êtes capables de faire tout ce que vous voulez. Tu sais, moi, prenez-moi comme exemple, je suis bien contente parce que mon intention de vie, c'est d'inspirer le plus de gens possible. Puis quand je fais des marathons, en plus de me rendre heureuse, moi, j'inspire des milliers de coureurs en arrière. Hey, on était 54 000 à la ligne de départ. Sais-tu qu'est-ce que je riais parce que à chaque fois, j'ai le même feeling. Je roule, là, puis le monde en arrière quand vous courez, là, sais-tu qu'est-ce que vous devez vous dire? Vous devez vous dire, tabarouette! Hey, c'est pas une fille en chaise roulante qui va me dépasser, certain. Puis là, vous me dépassez. C'est clair, là. Tu peux pas rester en arrière de moi, là.
J'allais parler. En plus d'être conférencière, auteure, athlète, inspirante, vous êtes aussi humoriste. Merci beaucoup pour ce petit moment de bonheur qui va être gravé dans nos mémoires et on va continuer à suivre vos exploits. Merci beaucoup d'être venue nous parler.
Merci beaucoup de m'avoir invité. Puis comme je dis toujours, je continue. Merci.
Au revoir.
Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Je pense qu'on est tous secoués de cette entrevue-là. Moi, je trouve que ça prend beaucoup plus de Janie dans nos vies. Je l'écouterai à la journée longue.
Moi aussi.
Mon Dieu, qu'elle est inspirante. Ça n'a aucun sens. Puis qu'elle dégage aussi. Elle est contagieuse. Tu sais, comme ça vient nous chercher. Puis, oh,
écoute, hallucinant. On dirait que je viens de boire 3 cafés.
Ouais.
2 Red Bull.
Comme un boost.
Là, je suis prête à attaquer le reste de la journée. Ouais.
Moi, j'ai jamais fait de marathon, mais on dirait que tout d'un coup, je suis capable d'en faire un. Ouais. On dirait qu'à l'écouter parler, c'est hallucinant. Bref, si vous avez manqué cette entrevue-là, vous pourrez l'écouter dans le balado de Yasmine, Janie Barré, qui vient de s'ajouter au livre du record Guinness.
Pour une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel Fadel.
Cube Radio.
Cube Radio.
En direct à LCN. À LCN.
Bonjour Marianne. Bonjour Marianne.
Le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon, lors de la période des questions cet avant-midi, a fait semblant de s'ouvrir les veines lors d'une réponse de François Legault, qui lui répondait à lui incidemment. Écoutons.
Si jamais il perd un troisième référendum, sa souveraineté, va-t-il devenir caquiste? On pourrait se demander ça, Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous avez vu les signes du chef du PQ qui veut s'ouvrir les veines, donc se suicider. Écoutez, c'est son problème, mais ce que je lui dirais, qu'il lise le sondage de son ami Jean-Marc Léger ce matin, 65 % des Québécois appuient le gouvernement de la CAQ.
La caméra, Yasmine, n'était pas sur le chef péquiste, évidemment. On ne peut donc pas montrer l'extrait en question, mais le chef s'est excusé, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est excusé sur X, en disant, bon, je n'avais pas la parole, j'ai répondu spontanément à l'affirmation du premier ministre comme quoi je deviendrais un jour caquiste par une boutade, bon, comme quoi je préférais m'ouvrir les veines que de devenir caquiste, finalement. Est-ce que, pour toi, Yasmine, c'est une erreur de jugement ou c'est une tempête dans un verre d'eau?
Tempête dans un verre d'eau complètement, là. C'est une réaction qui était peut-être pas la plus élégante sur le coup, mais que finalement, on va monter en épingle puis dire qu'il manque de sensibilité. Là, vraiment, là, c'est pas comme ça qu'il faut le voir du tout. Paul Saint-Pierre Plamondon a juste voulu réagir, puis peut-être que finalement, c'était le meilleur moyen physiquement de démontrer à quel point il ne veut pas rejoindre la CAQ. Éventuellement, avec du recul et a posteriori, on se dit, ouais, il aurait pu le faire d'une autre manière. Oui, mais il faut être dans le feu de l'action pour comprendre à quelle vitesse se passent ces interactions. Et il peut y avoir des fois des dérapages, des erreurs. Mais faut pas étiqueter Paul Saint-Pierre Plamondon avec ça. Là, honnêtement, là, c'est une anecdote qu'on aura déjà oubliée dans à peu près 3 heures.
Parlons des conservateurs fédéraux maintenant, qui lancent une pétition pour sauver les pailles de plastique. Un député qui disait en chambre qu'interdire le plastique est mauvais pour la santé, mauvais pour votre portefeuille, mauvais pour l'environnement. Yasmine, est-ce que tu comprends l'argumentaire?
En fait, je comprends ce qu'il essaie de dire. Je n'adhère pas à l'argumentaire dans le sens où tout le monde haït ça, les maudites pailles en papier. Là, on peut tous le dire, puis se regarder dans les yeux, puis être franc. Là, ça se défait dans la bouche, c'est pas bon. Mais tu sais quoi, c'est le prix à payer pour l'environnement. Évidemment, celle en plastique rendait la vie plus facile, mais elle polluait plus. Maintenant, les conservateurs, ce député en particulier, veut qu'on revienne à la paille en plastique. Puis là, c'est ce que je trouve la politique primitive, là, hyper populiste, où on prend un enjeu qui dérange, mais qui ne... Tu sais, il y a personne qui se mobilise pour les pailles, pour le retour des pailles en plastique. Puis on essaie là de rajouter du feu à ça de manière à ce que ça devienne un enjeu. Voyons, donc, c'est pas les pailles en plastique puis les pailles en papier qui sont l'enjeu actuel des Canadiens. Puis j'aurais voulu vous entendre, les conservateurs, sur bien d'autres sujets, ce qu'ils évitent sciemment, que le retour des maudites pailles en plastique.
Ça va être quand même intéressant de voir si les gens vont signer ou pas cette pétition-là, ce que ça va donner au final.
Je suis sûre que oui. En fait, c'est plus facile d'aller la signer que de bâtir une stratégie pour dire, ben, tu sais quoi? Les pailles en plastique, les pailles en papier, on va aller en lutte contre ça. Moi, je veux être une mouche dans la rencontre du caucus conservateur chez les stratèges où ils se sont dit... C'est quoi le sujet qui interpelle le plus les Canadiennes ces temps-ci? Puis ils ont fait un gros brainstorm, 3 jours, ils ont pondu un rapport, puis finalement,
peut-être
ils ont touché avec
les pailles en papier. Peut-être qu'on y va avec
l'instinct, là. Ouais. Il faudrait peut-être arrêter d'y aller avec l'instinct, puis peut-être revenir au bon vieux brainstorm.
Ouais. Ben on dit le gros bon sens. J'imagine que de leur optique, ça
la vieille
ça
bonne paille, ils en chantent.
Ouais.
Mais là, ils ont changé là, de slogan. On est passé du gros bon sens à la bonne vieille paille.
Merci, Yasmine. Bonne fin de journée
bye
à
bye
toi.
Bye.
Au revoir.
Pour une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel-Fadel.
Il y a bien des jeunes et des moins jeunes là qui regardent les débats sur TikTok puis qui voient que les États-Unis pensaient à le bannir puis se disent ben là on veut pas de ça chez nous. On retrouve Jordan Chénard, spécialiste en communication marketing, pour en parler. Jordan, l'abolition et le bannissement éventuel de TikTok aux États-Unis, ça pourrait avoir quoi comme impact autant là-bas que si ça arrive ici?
Ça peut avoir des gros impacts, c'est-à-dire que c'est rendu un réseau social complètement incontournable. On le voit même aux États-Unis, les politiciens en question ont beau dire à tout le monde que c'est dangereux, puis c'est une application qui doit être bannie, du moins s'assurer que toutes les informations sont en terre américaine et non pas du côté de la Chine, ben ça les empêche pas de faire de grosses campagnes publicitaires pour leur campagne d'élection là actuellement en cours. Donc ils prennent d'assaut ce réseau-là comme tout le monde, parce qu'en fait les gens sont là. Donc du point de vue des communications, c'est sûr que on frapperait un mur, entre grosses guillemets. Il y aurait une transition qui se ferait par contre. Il n'y a jamais un vide qui va rester vide dans le monde des communications. Donc, si c'est pas du côté d'Instagram ou de Snapchat ou d'autres plateformes comme ça, il y a quelque chose qui prendrait le relais. Mais
c'est-tu vraiment faisable, là? Parce qu'on a vu même des influenceurs sortir pour dire, moi, je gagne ma vie avec ça. Comment pouvez-vous me faire ça? Tu penses vraiment que ça va finir par être vrai? Parce que ça fait longtemps qu'on en parle.
Ben c'est justement, il y avait un déroulement hier et juste avant qu'on rentre pour se parler, ça a été confirmé. En fait, récemment, on avait vu que le Congrès avait mis de l'avant une espèce de package de bill, de loi qu'ils voulaient voter pour toute la politique internationale. Et ils ont glissé là-dedans tout ce qui concernait TikTok. Exactement, un petit papillon parmi tout ça par rapport à l'Ukraine et la Chine et tout ça. Ben, ils ont glissé le volet TikTok et ça a été signé tantôt, en fait, voilà quelques heures. Officiellement, TikTok, c'est le cas de dire, il doit entendre l'horloge cliquer un peu parce qu'il y a officiellement, avec cette loi-là qui a été signée, 9 mois pour désinvestir, donc bref, vendre à un acheteur américain la plateforme TikTok en question. On s'entend, c'est là où est-ce que ça peut se faire? Là, il y a officiellement une loi, donc oui, ça va pouvoir se faire, mais là, on embarque dans les belles démarches américaines. Donc, si j'ai des gens au Canada, mais aux États-Unis qui ont bien, bien peur, sachez que ça peut pas se dérouler aussi rapidement que ce que ça donne comme impression. Dans 9 mois...
Vous avez 9 mois pour vous trouver une vraie job.
Et encore, ça peut quand même être une vraie job, ça dépend lesquels, mais je te dirais, ils ont un préavis bien plus long que ça. En fait, les différents experts confirment que même là, en 9 mois, ça va déjà être difficile de trouver un acheteur parce que l'administration Biden ne voudra pas vendre à un Meta ou un Google qui sont déjà trop puissants. Ils vont pas vouloir leur donner TikTok. Et de l'autre côté, ben ils vont pas pouvoir le faire dans 9 mois parce que il y a ce qu'on appelle les recours. Donc, TikTok, évidemment, refuse ça, amène ça devant les tribunaux, sont en train de remplir la paperasse et tout ça. Donc, présentement, là, si tout se déroule comme on s'attend, ça devrait être aux alentours de 2026 que le délai de 9 mois va rentrer en considération. C'est quand même très, très gros. Si on regarde en général qu'est-ce qu'il y en a, par exemple, là-dessus, si on ressort de TikTok un peu puis qu'on regarde la situation sur ce choix-là que les États-Unis ont fait, c'est quand même un gros coup de masse à... L'expression sur un utilisateur et à travers, mais là, c'est quand même important, du volet de la liberté d'expression, c'est-à-dire liberté de choisir ce qu'on utilise pour s'exprimer. C'est quelque chose qui, oui, on s'entend, il y a des enjeux, mais les enjeux qu'on reproche à TikTok, j'en avais déjà parlé à l'émission, c'est les mêmes enjeux qu'on peut reprocher à Facebook et à Google. La seule différence, c'est le volet des données qu'on trouve qui sont hébergées. En fait, ils ont même pas pu le prouver que c'est complètement hébergé du côté de la Chine, mais c'est trop poreux. Ils sont pas assez certains que Pékin n'a pas son nez dans ces données-là du point de vue de TikTok.
Mais tu sais, il y a plein d'autres applications là qu'on sait qu'elles sont chinoises, les Temu, les Alibaba, le commerce qu'on fait avec Alibaba, il y en a des affaires là, WeChat, un réseau de communication principalement utilisé par la communauté chinoise. On va-tu commencer à bannir toute organisation, tout média en lien avec la Chine?
Ben, c'est un peu là le problème et c'est là ce que je vois. J'ai l'impression qu'ils viennent de se mettre le bras dans le tordeur et on va le voir justement avec les recours que TikTok va faire. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir en fait au grand public. C'est-à-dire que de un, la globalisation qu'on connaît dans le monde technologique fait en sorte que ici et là, dans plusieurs entreprises, ne serait-ce que dans les jeux vidéo, il y a toujours une main quelque part d'une entreprise chinoise qui a accès à des données du public américain et que les données sont pas hébergées là. Donc, si c'est les raisons pour lesquelles on veut bannir TikTok et l'obliger à vendre à une entreprise américaine, Quel autre? L'espèce de paradoxe de la pente glissante, là. Donc, s'il y a ça, ça veut dire que là, j'ai pas les jeux en tête, là, mais il y a une quantité de jeux où il y a des investisseurs qui sont chinois, là-dedans. Donc, je suis vraiment surpris, en fait, que ça ait passé parce que, v'là même pas 24 heures, là, 48 heures encore, c'était très, très douteux. Même le président prenait pas tant ça au sérieux. Il y avait pas vraiment d'intérêt à mettre cette loi-là de l'avant. Et là, du jour au lendemain, en 24 heures, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a mis ça de l'avant. Il a été suivi par tout le monde. Et là, ben, ça a été officiellement signé. Donc, il y a une espèce de boost dans les dernières heures qui fait que là, ça a passé. Mais moi, c'est vraiment là où j'ai bien l'impression que ça va shaker le pommier, comme on dit en bon français. C'est-à-dire que en faisant ça pour TikTok, on vient vraiment de mettre en jeu une quantité de choses dans tout l'écosystème des communications et des technologies, vu le volet international de ce marché-là. En 2026, ils sont obligés de vendre, il y a pas mal d'autres choses aussi qui vont avoir bougé, puis l'Internet, comme on le connaît aujourd'hui, va probablement changer pas mal. Mais encore là, il est très, très tôt. On va voir s'ils vont avoir TikTok va avoir raison ou pas.
Mais Jardin, moi, je suis toujours un peu surprise de voir la réaction des élus américains devant les allégations de finalement utilisation des données personnelles de TikTok au profit du régime chinois. Je me rappelle pas d'avoir vu les élus adopter une pièce législative aussi rapidement lorsque éclatait le scandale de Cambridge Analytica puis l'utilisation de Facebook et de tout le groupe Meta de données personnelles pour les votes, là, pour des votations, exact, pour des campagnes électorales. Pas vu ben des politiciens voter des lois là-dedans, là.
Non, pas vraiment. Et quand on regarde ce cas-là pour Cambridge Analytica, on voit que par en dessous, en fait, c'est su, c'est même pas caché en tant que tel. On parlait surtout de Trump qui avait servi Trump dans ses intérêts-là de Cambridge Analytica, qui avait vraiment joué avec d'influence avec les réseaux sociaux. Mais il y avait aussi beaucoup d'élus américains qui ont utilisé ça. Ce qui fait que encore une fois, tu sais comment j'aime pas faire de procès d'intention, mais c'est quand même douteux de mettre la faute sur TikTok, qui est une plateforme qui est beaucoup plus hermétique que Facebook l'a été, mais on a découvert que Facebook était pas si hermétique parce qu'il y avait une faille que Cambridge Analytica avait exploité. Là, c'est comme, est-ce que ça leur sert juste pas assez, fait qu'ils peuvent se permettre de le tasser? Je ne sais vraiment pas. Mais c'est ça, c'est vraiment deux poids, deux mesures. Et là, en faisant cette action-là, je pense que ça va vraiment forcer à avoir des gros débats que je sais pas comment qu'ils vont se terminer. On va peut-être rester dans l'espèce d'ambivalence quand même, mais ils vont devoir le nommer clairement parce que là, ce sera plus flou, ça va vraiment sortir, puis TikTok se laissera pas faire. Et ils ont pas mal d'argent, je pense, pour être capable de se défendre. Battre un certain
temps. Je pense qu'ils ont quelques sous de côté. Jordan Chénard, spécialiste en communication marketing, toujours un plaisir de te parler.
Toujours un plaisir. Salut.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel Fadel.
Aviez-vous comme objectif d'aller aux îles de la Madeleine cet été? Eh bien, vous allez devoir mettre la main à votre poche. Ça va vous coûter 30 $ pour les visiteurs de 13 ans et plus pour finalement avoir la passe archipel qui vous permet de finalement visiter l'île. On en parle avec Antonin Valiquette, maire des îles de la Madeleine. Bonjour, M. Valiquette.
Bonjour.
Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui dénoncent le fait que sur un territoire québécois, les îles de la Madeleine, jusqu'à preuve du contraire, en est un, on ait besoin de payer pour y aller, pour visiter. Qu'est-ce que vous leur répondez?
En fait, premièrement, ce que je vous réponds à vous, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui appuient et qui approuvent l'idée derrière la passe archipel qui, loin d'être un contrôle d'accès au territoire, est plutôt une contribution par
règlement
obligatoire aux visiteurs qui viennent nous voir pour contribuer à préserver un archipel qui est fragile, qui est unique aussi au Québec comme destination. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça de cette façon-là, beaucoup moins invasif et dérangeant pour les visiteurs et pour les citoyens madelinots que de devoir payer des stationnements ou des accès de plage. On a 130 km de plage autour des îles de la Madeleine. Les infrastructures publiques, récréotouristiques sont toutes gratuites. Tout ce qui est terrain sportif extérieur, tout ce qui est infrastructure municipale qui appartient à la ville, tout est gratuit. Mais
c'est le cas aussi dans les autres villes. C'est aussi le cas dans les autres villes du Québec. Tu sais, imaginez si la Gaspésie disait là, partir d'un certain territoire, ben vous allez devoir payer pour entrer parce que là, on reçoit aussi beaucoup de monde, puis on a des infrastructures qui sont gratuites, pareil.
Ben en fait, dans ce moment-là, lorsque vous avez une autre municipalité qui, comme nous, devait recevoir jusqu'à 5 fois sa population en dedans de quelques mois, décidait que pour justement se donner une chance d'entretenir, de maintenir l'entretien de ces infrastructures-là névralgiques pour justement l'industrie touristique, pour maintenir la bonne destination de leur destination, allait, et c'est loin d'être rare, mettre des péages à certaines infrastructures, certains accès de plage. Vous avez des plages publiques qui sont payantes et vous avez des stationnements qui sont payants ailleurs au Québec, là.
Mais une infrastructure, oui, c'est on paye pour l'infrastructure, mais c'est comme si je payais pour aller visiter Laval ou payer pour aller à de l'autre côté à Longueuil. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, d'autres villes, d'autres municipalités au Québec où on paye pour pouvoir visiter la ville, là, qu'on paye directement la ville, qu'on paye pas, là, je parle pas de l'utilisation d'un stationnement ou la location d'un espace pour mettre son VR, non, je parle de une contribution obligatoire, on va appeler ça une taxe, là, parce que c'est ça que c'est, c'est une contribution obligatoire.
En fait, c'est très différent. Là. Une taxe, le pouvoir de taxation des municipalités ne nous permettrait pas de mettre en place la passe archipel. C'est le pouvoir d'instaurer une réglementation, une redevance réglementaire par la loi Cités et Villes qui nous permet
alors,
de faire ça.
C'est une redevance obligatoire, si on va utiliser les bons mots. Est-ce qu'il y a une autre municipalité qui a mis en place des redevances obligatoires pour les touristes? Ou pour les personnes qui n'habitent pas sur le territoire?
Vous avez des exemples de villes, par exemple, qui vont mettre ça sur de l'hébergement, par exemple, touristique. Il faut comprendre encore là le caractère spécifique parce que vous avez des taxes d'hébergement, par exemple, touristique, où il y a une partie de l'argent qui revient à la municipalité, à la ville. C'est pas le cas aux îles de la Madeleine. La taxe d'hébergement, elle est perçue. C'est une taxe d'hébergement qui est mise en place par le gouvernement du Québec. Donc, nous, ici, aux îles de la Madeleine, la taxe d'hébergement, elle va au gouvernement du Québec et il y a une partie qui est redistribuée à l'association touristique ici qui est en charge de la structuration de l'offre touristique, mais la ville ne reçoit absolument rien de ça. Donc, à l'image d'autres villes qui vont justement placer des...
excusez-moi, les autres villes qui ont une taxe sur l'hébergement, est-ce que c'est eux qui perçoivent cet argent-là?
Il y en a que oui. Il y en a que les villes perçoivent une partie de la taxe d'hébergement à ce moment-là. Donc, nous, aux Îles-de-la-Madeleine, on y a été avec une mesure qui répond à nos caractéristiques spécifiques et à notre caractère unique de territoire. Et on y a été sur le modèle quand même de destination touristique internationale où c'est le même principe qui s'applique. Donc, on y va avec, plutôt que d'achaler les gens avec des péages sur des endroits publics, sur des terres publiques, sur des plages, sur des sites de la municipalité ou des villes, ben on a dit, ben écoutez, donc, on est une île, donc la redevance peut s'appliquer à ce moment-là à l'entrée, à la sortie, étant donné qu'on a seulement deux points d'accès et de sortie des îles de la Madeleine. Donc, c'est une contribution pour la préservation d'un archipel fragile, je vous le rappelle, et les gens qui viennent aux îles de la Madeleine, l'idée, c'est justement, c'est de préserver cet endroit-là pour pouvoir en jouir et y revenir longtemps. C'est de la préservation, c'est tout l'argent qui s'en va là, qui est perçu par la redevance, s'en va dans un fonds de gestion durable du territoire. On n'a pas appelé ce fonds-là pour rien, là.
Mais Monsieur Valiquette, comme contribuable, qu'on habite Montréal, Québec ou Gaspé ou Rouyn-Noranda, on participe déjà avec nos taxes et nos impôts au maintien des îles de la Madeleine, évidemment aux infrastructures des îles de la Madeleine, et c'est normal, comme on le fait partout au Québec, mais évidemment, partout au Québec, on peut y aller sans avoir à payer une passe, sauf les îles de la Madeleine. Ça serait assez particulier si Montréal disait, ben moi aussi, je reçois beaucoup de monde, particulièrement pendant la période estivale. J'ai des festivals ici, puis ça me coûte cher en stationnement, ça me coûte cher en nettoyage, ça me coûte cher en X, Y, Z. Bon, ça va coûter 60$ par personne pour mon rentrer sur l'île. Tout le monde déchirait sa chemise.
Il faut tenir compte de l'adaptation au milieu du territoire puis aux caractéristiques spécifiques du territoire. Une ville comme Montréal va charger des stationnements, va charger toutes sortes de frais aussi pour les gens qui y vont, par exemple, pour des entrées des festivals. Vous avez des rues qui sont bloquées, c'est payant pour aller dans les festivals, pour aller dans des événements, parfois organisés par la ville. Écoutez, là, je ferai pas l'analyse cas par cas de toutes les villes du Québec pour
la comparaison. Mais non, parce que vous êtes la seule. Non, mais parce que vous êtes la seule, la comparaison, on l'a fait parce que vous êtes la seule à demander 30$ pour rentrer sur l'île. Donc, c'est facile de poser des questions. Pourquoi?
Je vous dirais qu'à ce moment-là, justement, parce qu'on est la seule, c'est là où que l'exercice de comparaison peut être un peu biaisé, peut être, inexact.
Ben, c'est juste qu'on a l'impression que nous, Québécois, qui habitons pas sur l'île, n'avons pas le même droit en allant en Abitibi qu'en allant aux îles de la Madeleine. En Abitibi, tu peux y aller, pas de problème. Tu peux arriver à Rouyn, faire tes affaires, payer ce que tu as à payer et rentrer chez vous. Mmh. Mais aux îles de la Madeleine, quand c'est une famille puis qu'il doit mettre 100$ de plus rien que pour pouvoir y aller, ça commence à être compliqué, avouez-le.
Ben, en fait, lorsque vous partez en voyage, vous savez que vous allez avoir des dépenses. Moi, quand une famille des îles de la Madeleine quitte les îles pour aller dans une autre destination, doivent aussi assumer des frais, notamment si on y va en voiture, faut déjà payer le pont de la Confédération qui
changera encore rien. Là est un ils vont continuer Pardon? À le payer. Ils vont continuer à payer le pont.
Oui.
C'est ça.
Bien sûr. Donc c'est ça, c'est il y a tout cet enjeu là. La passe archipel là, l'enjeu c'est pas de contrôler l'accès du territoire ou de facturer l'accès au territoire. C'est bien plutôt de préserver l'accès, la beauté des îles de la Madeleine. C'est un archipel qui est fragile. Tout l'argent qui va être perçu par la passe archipel est orienté vers la préservation du territoire avec les milieux naturels, avec les plages, avec les paysages. Donc, et là, on est arrivé à un point de rupture où est-ce que les 13 000 habitants des îles de la Madeleine, ben, si on veut maintenir et même bonifier nos infrastructures et nos services publics tels que demandés par les visiteurs, par les citoyens, ben là, il faut qu'on trouve une façon de diversifier nos revenus. Et c'est ce que le gouvernement du Québec dit aux municipalités aussi. Plutôt que de demander des subventions ou de l'argent au gouvernement du Québec, qui encore là sont assumés par l'ensemble des Québécois, ben les villes, voici des pouvoirs qu'on a votés en 2017 dans la loi des cités et villes pour être autonomes, avoir une autonomie de diversification de revenus. Donc, on l'applique on utilise ce pouvoir-là justement dans une orientation un peu plus utilisateur-payeur, dans le sens que ceux qui fournissent une contribution à la préservation d'un joyau unique aux îles au Québec, comme les îles de la Madeleine, ouais, mais... ce sont ceux qui y viennent et qui exercent une pression sur le territoire.
Oui, mais vous dites utilisateur-payeur, mais c'est parce que si on suit votre logique, le pont de Québec, le pont, pas le pont Pierre-Laporte, mais le troisième lien, ce serait juste le monde de Québec qui devrait le payer. Puis à Montréal, la STM, ça devrait juste être les Montréalais qui payent. C'est pas vrai. Puis Québec, les îles de la Madeleine ne reçoivent pas l'argent en fonction des 12 000, 13 000 habitants qu'il y a sur les îles. Là, c'est parce qu'on fait partie d'un territoire commun. Commun ici est le mot magique, mais aujourd'hui, on l'est un peu moins, puisque pour aller sur votre territoire, il faut payer 30 $ de plus par personne.
Écoutez, pour aller pour venir sur le territoire, ce qu'on demande, c'est de donner une contribution pour continuer à préserver ce territoire-là. Les gens qui viennent aux îles viennent parce que, justement, c'est un endroit magnifique et qu'il faut préserver la beauté de ce territoire-là. C'est une demande et c'est quelque chose qui se discute depuis plus de 20 ans là, aux îles de la Madeleine, là, d'avoir un principe de redevance touristique. Et je vous rappelle que c'est quelque chose qui se fait ailleurs, à l'international aussi. Donc, on y a été sur ce principe-là pour ce qui est de la méthodologie, de la façon de faire. On s'est dit, on veut pas commencer à avoir des péages puis à déranger le monde en vacances et les citoyens aux îles de la Madeleine à tous les fois qu'ils vont sur la plage ou qu'ils vont sur des endroits touristiques ou publics, d'avoir à soit monter une pièce d'identité, soit à débourser de l'argent à chaque fois. On y a été avec une passe archipel. On parle de 30 $. Le séjour moyen est de 10 jours. On parle de 3 $ par jour. Je pense que n'importe qui s'en va visiter un endroit va finir par donner au-dessus de 3 $ par jour à une ville ou à une municipalité lorsque l'industrie touristique est suffisamment importante.
Monsieur Valiquette, qu'est-ce que vous faites si quelqu'un ne paye pas?
La réglementation, là, pour aller mettre en place une passe archipel dans un principe de redevance réglementaire, on n'a pas le choix d'appliquer un règlement municipal. C'est pour ça que ça s'appelle une redevance réglementaire. Donc, évidemment, il y a la définition d'un règlement municipal, c'est que soit on s'y conforme, soit on a une conséquence. Donc,
alors, c'est quoi la conséquence?
Il peut y avoir, on peut être passible d'une amende qui peut aller jusqu'à 1000 $ lorsqu'on est un visiteur qui ne s'affranchit pas de la passe archipel.
OK. Dites-nous, à partir de là, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ça pourrait nuire à l'attractivité des îles de la Madeleine. Pensez-vous que cet été, vous allez peut-être avoir un peu moins de touristes à cause de ça?
À cause de ça, non. Je pense que le contexte économique, et ça, on l'a déjà vu dans le passé, lorsqu'il y a un ralentissement économique et que le prix des loyers monte et que le prix des produits de base augmente, écoutez, c'est le budget vacances souvent qui va subir des coupures dans les familles puis chez les gens en général.
Donc, surtout quand c'est une demande de 30 $ par jour, 30 $ par personne faisant partie de cette famille-là. C'est sûr que là, le budget vient d'augmenter. Antonin Valiquette, maire des îles de la Madeleine, bonne chance et bonne saison estivale.
Merci beaucoup.
Au revoir. Ouais. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Je vous retrouve pour ma part très bientôt pour un autre épisode sur Cube.